les amis.
Et bonjour Lulu.
Bonne année à vous.
Ça fait plaisir de te retrouver.
Ah ben, moi aussi, sincèrement. C'est un grand bonheur. C'est vrai que je me suis absenté pour des raisons très particulières. Et c'est avec une joie non dissimulée que je vous retrouve. D'ici d'ailleurs, donc continue. Et continuera, je l'espère, le plus longtemps possible.
Et nous aussi.
Les auditrices et les auditeurs de cette belle région de la Corrèze se font comme plaisir d'écouter cette radio Bram FM. Et oui, Bram FM, la radio, celle qui met en lien les gens de notre beau territoire. Donc d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui, pour ce 2025, j'accueille un monsieur qui a fait un parcours à pied très particulier. C'est un grand bonheur que j'ai eu, très sincèrement, de le rencontrer. Et il nous parlera un peu de ce qu'il a fait, de son parcours, Aymeric.
Oui.
Ce monsieur, il habite dans cette belle région de la Xantrie. Et il s'avère qu'il a pris son bâton de marche un jour. Et il a traversé, si on peut dire, le parcours de cette très belle rivière, la Dordogne. Et lui, il a eu cette merveilleuse idée, je trouve, de prendre cette rivière directement à sa source, l'endroit où elle sort de terre. Et où elle va se jeter dans l'Atlantique à côté de Royan, c'est un genre de Didon et Royan. Et c'est une belle démarche, et à tel point qu'il a lié son parcours avec celle d'un ruisseau, donc cette Dordogne. Quelle belle aventure, ne pas marcher pour rien, marcher pour soi mais aussi pour les autres, et marcher avec comme objectif une rivière. On a besoin de l'eau,
n'est-ce pas ?
Sans eau, il n'y a pas de vie. Et la rivière, c'est avant tout un voyage, c'est un rêve. Elle nous transporte autant qu'elle nous transporte physiquement sur son dos, si on peut dire, à travers un voyage que l'on fait sur une barque ou un bateau, et elle nous transporte psychologiquement. Vous le savez, je l'ai dit à mon invité, Jimmy Marx, donc, il s'appelle. Je trouve que ce prénom, Jimmy, correspond très bien avec l'idée du voyage, je ne sais pas pourquoi. Jimmy Marx, souvenez-vous de ce nom. Ce monsieur est en train d'écrire un livre suite à son parcours, mais on en reparlera à la fin de l'émission. Et quand ce livre sortira, on en parlera, on le réinvitera pour qu'il vienne nous donner plus de détails. Je voulais dire en introduction de cette émission, Jimmy, que l'époque est au sensationnel. Je sais pas, tout le monde a envie de faire des choses extraordinaires. L'époque n'est pas au modeste, elle est au sensationnel. Ce n'est pas une critique idiote que je fais, c'est juste un constat. L'époque au sensationnel, c'est toujours plus fort, plus vite, plus haut. Se dépasser tout le monde, se dépasser soi-même. L'exploit à tout prix. Non pour soi, mais comme modèle. Voyez-vous, mon invité, il est ailleurs. C'est le cas de le dire. Il n'est pas dans cet ordre-là. Il a fait cette démarche-là de marcher à pied avec toute la solitude que cela comprend et non pas pour devenir un homme célèbre. Et oui, notre époque, si t'as pas ta Rolex à 55 ans, t'as raté ta vie, selon un publiciste que l'on a bien connu.
Jacques Seguela.
Et oui, si t'as pas fait ton trekking au Népal ou dans le Hoggar, t'es un ringard. Malheureusement, mon invité aujourd'hui, donc Jimmy Marx, est un modeste, à l'image d'un Élisée Reclus, ce grand géographe d'ailleurs qui a écrit un très beau livre, L'histoire d'un ruisseau et l'histoire de montagne, que j'offrirai d'ailleurs à mon invité. Élisée Reclus, ce grand géographe malheureusement pas connu, un peu anarchiste, qui est surtout un grand humaniste, qui a fait la Commune de Paris et qui nous parle de la montagne et de ruisseaux. Comme peu ont su le faire. C'est avant tout un poète au-delà du géographe. Élisée Reclus, donc, et mon invité, ce sont deux personnes, des gens humbles, mais surtout des consciences, qui nous mettent en face de nos responsabilités. Quelle est la place de l'homme dans cette société ? Jimmy Marx, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec un immense plaisir que je te reçois, je te le dis du fond du cœur.
Oui, bonjour Jimmy déjà quand même. Hein.
Bonjour.
On ne s'est pas dit bonjour.
Oui. Bonjour, mais merci à Bram FM de m'inviter. Et puis meilleurs vœux aussi à tous les auditeurs.
Ouais.
Et puis voilà.
Oui, et puis santé, bonheur, hein, parce que santé en ce moment, il y a besoin de souhaiter beaucoup de santé à tout le monde, hein, vu ce qui se passe. Hein. Tu ne diras pas le contraire, Lulu.
N'est-ce pas, oui, voilà. Effectivement. Bon, alors, on va commencer cette émission donc avec mon invité. Jimmy.
Oui.
L'histoire de ton parcours, je l'ai dit, c'est, tu l'as lié à l'eau, à cette rivière, la Dordogne. La Dordogne, c'est avant tout l'histoire d'un ruisseau, bien sûr, mais un ruisseau, ça naît en quelque part, donc à travers sa source, et se perd, comme disait Élisée Reclus d'ailleurs, il se perd dans la mousse, et c'est avant tout une histoire de l'infini. Et si je te dis que effectivement le ruisseau c'est une histoire de l'infini puisque il part dans la vapeur d'eau, l'eau qui s'évapore, qui monte dans le ciel, qui retombe en eau, après qui est filtrée par la terre, qui ressort dans sa source, et l'être humain justement il y a un peu de comment, il y a une part de rêve là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as découvert ça en marchant le long de la Dordogne?
Oui, tout à fait. Même les rivières, je pense, on peut en tirer plein de pensées philosophiques. Par exemple, rien qu'à sa source, c'est une éternelle naissance, par exemple. Et puis, la rivière va toujours tout droit. Elle sait où elle va. Et elle ne revient pas en arrière. Et elle grandit à chaque fois, au fur et à mesure de son avancée.
Donc tu as été attiré par l'eau dès le départ.
Voilà.
Tu es né dans cette région, dans une région d'eau, l'Axandrie.
Voilà.
Alors à ce sujet-là, on va revenir à Élisée Reclus. Il a une petite phrase que je t'offre et que j'offre à tous les auditeurs. Il dit ceci. La source surtout, l'endroit où le filet d'eau caché jusque-là se montre soudain. Voilà le lieu charmant vers lequel on se sent invinciblement attiré. Ce fut ton cas, donc.
C'est ça.
Alors, au-delà de cette attirance, de cette rivière qui a porté ton cœur et ton esprit, qu'est-ce qui t'a amené, Jimmy, à vouloir faire ce parcours? C'est une initiation d'être humain, d'adulte, qui a envie de pousser ses pas l'un vers l'autre, vers un ailleurs aussi.
Voilà.
En partant d'un ici, c'est le cas de le dire.
C'est ça, il y avait un peu de tout ça. Je voulais faire à la base un voyage en van aménagé, à faire le tour de la France. Donc j'ai jamais eu les fonds nécessaires pour m'acheter un camion. Donc je me suis dit, j'ai deux jambes, je vais faire ça à pied. Et après, je ne savais pas trop quel endroit où aller à faire un voyage. J'ai deux régions de cœur qui sont l'île d'Oléron et la Corrèze. Donc à la base, je voulais rejoindre la Corrèze et l'île d'Oléron. Et puis je me suis dit, je vais suivre une rivière parce que c'est pas très loin entre les montagnes et l'océan. Donc voilà.
À titre d'information, ça fait combien de kilomètres de sa source, la Dordogne, à l'océan?
Alors elle fait 480 kilomètres.
D'accord.
À peu près.
Mais qu'est-ce qui t'a amené à partir directement de la source? T'aurais pu prendre dans un endroit plus accessible?
Non, parce que moi, je veux faire... Je fais les choses...
Entièrement,
voilà.
Ou pas du tout.
Ou pas du tout.
Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et puis, pendant mon voyage, je voulais voir la Dordogne à tout moment, sauf qu'à certains endroits, j'ai dû modifier mon itinéraire. Parce que c'était trop compliqué de suivre le cours d'eau en lui-même. Donc,
oui, parce que voilà. C'était trop escarpé.
On en reparlera. Tu es parti des sources de la Dordogne, donc ce que j'appelle le puissant 6, c'est ça? Exactement.
C'est ça.
La Dor et la Dogne, ce sont deux petits ruisseaux qui se joignent pour former la Dordogne. Tu as commencé dans l'hiver, non?
Du coup, je suis parti le 10 avril. Alors déjà, j'ai fait un voyage à pied, un voyage en stop d'Argentat sur Dordogne au Puy de Sancy pour bien me rendre sur le point de départ. Donc j'ai fait un premier voyage d'une journée en stop, donc j'ai fait des rencontres. Et puis après, je suis revenu sur mes pas à pied et je suis parti le 10 avril du Puy de Sancy.
T'es monté à la source?
Je suis arrivé à la source. Et puis, j'ai voulu visiter les résurgences des sources aussi, de la Dor et de la Dogne. Et puis après, voilà,
Il y avait de la neige encore?
Il y avait de la neige. C'est ça qui était sympathique aussi pour le départ, c'est qu'il y avait de la neige. Et puis après, je suis arrivé le 29 mai au phare de la Coubre en Charente-Maritime. Et là, il y avait le dernier jour, il n'y avait pas un beau temps. Mais la fin, c'était des plages vers Méchet sur Gironde. Et puis, il faisait beau vers Royan.
Voilà. Donc consciemment, tu es parti dans un moment où il y avait de la neige. Tu étais obligé, si je dis ça, tu étais obligé de t'habiller physiquement pour ne pas avoir froid. C'est un transport en plus, c'est une charge supplémentaire à porter.
Oui. Oui, il faut s'habiller. Même si j'avais pas pris beaucoup d'affaires, j'avais pris l'essentiel vraiment pour le bivouac. Et pour. Mais après, moi, mon voyage, c'était en deux parties. Donc j'ai fait du Puy de Sancy jusqu'à Argentat-sur-Dordogne, où j'ai fait une pause. Et donc là, je me suis délesté de toutes mes affaires d'hiver. Et ensuite, je suis reparti donc d'Argentat-sur-Dordogne jusqu'à Blaye, puis Royan.
D'accord. Donc avec moins d'effets à porter, moins lourd.
Voilà.
Très bonne initiative, oui.
Puis sur Bergerac, j'ai aussi renvoyé un colis d'affaires où j'ai vraiment... Bergerac, c'était vers mi-mai. Donc à Bergerac, plus bas, et on avait avancé dans la saison, il faisait plus chaud. Donc là, j'avais vraiment enlevé toutes les dernières affaires chaudes pour les bivouacs.
On va se faire une petite pause musicale, Aymeric, non ?
Eh bien, allons-y, puisqu'on parle de la Dordogne, du fleuve la Dordogne, qui dit Dordogne dit gabarier, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard avec toi, bien et sûr. Avec toi, Jimmy, aussi. Mmh. Avec Jimmy March, aujourd'hui, sur Bram FM, l'invité de Lulu dans l'émission d'ici et d'ailleurs, pour la première inspiration musicale de cette émission, une accordéoniste, Guy Lenlor, et le titre Le temps des gabariers. À tout de suite.
C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qui le conduisait du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois dans les gorges profondes. Le beau voyage au fil de l'onde, au temps des gabariers. En ce temps-là, notre belle rivière coulait gaiement sous les ponts de chez nous. On aimait voir folâtrer son eau claire, reflet d'argent dansant sur les cailloux. Je me souviens, on chargeait les gabarres à ce contour au pied de notre maison. Les fiers lurons en larguant les amarres nous quittaient en chanson. C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leurs bateaux qui le conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois dans les gorges profondes. Le beau voyage au fil de l'onde au temps des gabariers. Quand il disait que Noé était marchande, le moment était venu de partir. Il quittait Jeanne, Marie ou Fernande, mais quand on part, c'est pour mieux revenir. Les échalas chargés sur les gabarres, ils s'en allaient au fil des hautes eaux. Pendant 3 jours, et sans lâcher la barre, ils voguaient vers Bordeaux. Au temps des gabariers.
C'est beau la nature, hein. On entend même les mouettes qui chantent. Le temps des gabariers, de l'accordéoniste et chanteuse Guylaine Laure à l'instant sur Bram FM. On parle des gabars, on parle de la Dordogne avec Jimmy Marx qui est l'invité.
Marx.
Oh là là, que je dis n'importe quoi. Jimmy Marx qui est l'invité de Lulu aujourd'hui dans l'émission D'ici et d'ailleurs qui fait son retour en ce samedi 11 janvier sur Bram FM.
Le temps des gabariers, je crois que c'est une chanson qui a été écrite par Altero Betti, ce grand monsieur qui a marqué cette région dans sa spécialité musicale, l'accordéon. Monsieur qui, pendant la guerre, faisait passer des messages dans ce...
D'accord.
Il démontait les boutons de son accordéon pour... il faisait des balles, ce qu'ils ont appelé des balles sauvages, comme ils étaient interdits.
Ah ouais, c'est les rêves parties de l'époque, en fait.
Et oui. Et donc, il faisait passer des messages au maquisard à travers ce monsieur. Il a fait de vraiment de belles choses. Il aimait son pays. Il aimait surtout rencontrer des gens, faire partager du bonheur, faire partager des rencontres. Ça, c'est important dans ce monde qui éclate. Altero Betti, pour moi, un exemple. Bien sûr, il n'y a pas que lui, mais parmi tant d'autres. Donc, Jimmy Marx, la motivation de Au-delà du ruisseau, dont on parlait tout à l'heure, la motivation de ce qui t'a amené à faire ce parcours, parce que partir sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas rien, à pied. Ça s'improvise pas, même si ça s'improvise un peu, parce qu'il y a toujours l'élément de l'inconnu qui arrive au niveau tous les jours. Mais c'est quelque chose que tu rêvais depuis longtemps, ou un jour comme ça, parce qu'il y a une rupture dans ta vie, même si ça ne nous regarde pas, bien sûr, on va pas rentrer dans, on rentre pas dans l'intimité de nos invités, mais est-ce que quand même il y a eu un élément qu'il fallait aujourd'hui j'y vais, je m'en vais, quoi.
Oui, tout à fait. Ben, j'étais sur l'île d'Oléron, donc j'étais en emploi saisonnier pendant l'hiver, et mon contrat se terminait, sauf que j'étais en emploi logé. Donc au mois de mars 2024, mon contrat se termine, je n'ai plus de travail et je n'ai plus de logement. Donc je voulais rentrer chez mes parents en Corrèze, puis je me suis dit, je vais profiter de... C'est une opportunité de faire ce voyage que je voulais faire depuis longtemps. Donc voilà, j'en ai profité pour le faire dans la foulée en avril 2024. Et j'avais aussi plusieurs motivations, par exemple me soigner de certaines peurs, comme la peur de l'inconnu qui était là. Et un voyage, c'est ça, c'est faire un saut dans l'inconnu. Donc voilà, me défier un petit peu et puis faire... voilà.
J'avais entendu, j'ai perdu le nom de ce psychologue il y a quelques années qui avait dit « Marcher, c'est se guérir soi-même ». Je trouve que c'est une belle formule.
N'est-ce pas ?
C'est une thérapie, la marche, après tout.
Ah oui.
Tu confirmes, Jimmy ?
Oui, tout à fait. Puis il y a un pèlerin que j'ai rencontré en route qui m'a dit que c'est... voire plus efficace qu'une psychanalyse. puis surtout, quand on fait une aventure comme ça, on n'a pas d'autre choix que d'être son meilleur ami. C'est aussi comment on
se réconcilie avec soi-même.
Voilà.
Un petit peu.
C'est là, au pied des difficultés, il faut qu'on soit... faut qu'on s'entende bien, il faut qu'on ait confiance en soi et que... pour faire face.
Est-ce que tu avais, avant de commencer, la conscience que sur ton parcours, tu allais rencontrer des gens qui t'apporteraient quelque chose, une aide, ne serait-ce que matérielle, parfois, si besoin. Ou c'est quelque chose comme c'était ta première aventure, cette première expérience d'un parcours assez long à pied, est-ce que tout ça, c'était quelque chose qui était envisagé dans ton esprit ou que tu découvres au fur et à mesure ?
Ah, c'était une pure découverte, et puis j'ai été agréablement surpris par la générosité des gens qui ont été prêts à venir m'aider, que ce soit des gens qui ont eux-mêmes fait des voyages auparavant, des pèlerinages, et qui se sont rendus compte des difficultés de voyage à pied, comme le réapprovisionnement, ou savoir où dormir. Et bien, les gens sont venus m'aider. Et après, moi aussi, je suis allé rencontrer les gens et demander parfois le gîte ou le couvert ou des choses comme ça.
Est-ce que tu avais lu des revues ou des livres spécialisés pour un voyage à pied sur plusieurs jours comme ça ?
Oui, alors...
Qui était documenté, donc, un peu.
Voilà, donc je lis beaucoup de Sylvain Tesson, par exemple.
Sylvain Tesson, oui.
Et il y a deux livres qui m'ont motivé à partir et à faire le grand saut. C'est « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson et « Adrien et Camomille ». Donc, c'est le voyage d'un jeune garçon de 18 ans qui est parti avec sa vache faire 1300 km à pied.
Avec une vache, oui.
Voilà.
Effectivement, ouais.
Et donc, que ce soit la jeunesse de l'un ou le rétablissement de Sylvain Tesson après son accident.
Et oui, parce qu'il avait eu de grosses blessures.
Voilà. Hein. Donc, moi, je me suis dit, j'ai aucune excuse pour ne pas faire ce périple qui m'attend. Et là, ça m'a motivé à y aller.
Avant d'aller plus loin, on en reparlera si tu veux, mais. La question peut-être n'est pas le bienvenu à ce moment de l'émission, mais ça t'a donné envie de repartir une fois, t'as envie de continuer, ou c'est quelque chose qui a été fait que maintenant tu passes à autre chose, quoi.
Eh bien, il y a un peu des deux, parce qu'une fois que j'ai fait ce voyage à pied, j'ai moins envie de faire mon voyage en van, mais si l'occasion se présente, je le ferai. Et puis, j'ai quelques idées de prochains voyages à pied, pourquoi pas le long de la Garonne ou le long des affluents de la Dordogne.
Ah, hein. Alors pourquoi la Garonne d'ailleurs?
Pour compléter la
oui,
boucle
oui,
avec
oui,
la Dordogne. Parce que la Dordogne
oui.
se jette avec, la, voilà, ouais, avec ouais. la Garonne. Donc pourquoi pas faire l'autre?
Mais la Garonne c'est encore plus long, non?
C'est
oui.
plus long. Ouais, ouais. 500.
Oui.
Ah ouais, il a carrément pris les notes.
530
et tout.
Km ouais. la Garonne.
Dis-moi, donc, si nous disais tout à l'heure que tu avais fait une halte sur Argentat pour te délester d'éléments trop lourds dont tu n'avais plus besoin, donc tu as fait du début de la source jusqu'à la fin, tu as fait une grosse partie dans ce qu'on appelle de vallées en barrage, c'est ça?
Voilà, j'ai emprunté le chemin de village en barrage, géré par l'association Itinérève,
ouais.
et que je félicite parce que les chemins sont très bien entretenus. Sur le parcours, il y a deux pods où on peut dormir, c'est une sorte de petite cabane. Donc il y en a une à Saint-Nazaire et une autre à Laval-sur-Luzège. Mmh. Et ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce que d'avoir une nuit au chaud, au sec. Et il y a aussi en libre-service une épicerie sèche à prix libre. Donc idéal pour se ravitailler.
À quel endroit se trouve ?
Donc Saint-Nazaire, pas loin du Belvédère.
D'accord.
Ah oui, juste à côté du Belvédère, à Pribord-les-Orgues.
Oui.
Là, ouais.
Et Laval-sur-Luzège, c'est pas loin aussi du centre-bourg. Et puis voilà.
C'est un parcours que tu conseilles à pied, ça.
Le
village en barrage.
Oui, ouais. Que je conseille, mais quand même avec un peu d'équipement.
Oui. Parce qu'à par moment, c'est pentu.
C'est pentu, oui. Il y a les vallées qui se succèdent et c'est pentu.
Belle région.
Et magnifique, oui.
Ouais. Ah ben les gorges, hein. Pff, mon Dieu. Tu as vu des Milans?
Oui.
Ah.
Des chamois sur le Puy-de-Sancy, des Milans à Saint-Nazaire, à Grade-Bruyère, et après c'était les cigognes vers Saint-Loubès.
Ah oui, il y a les cigognes sur Saint-Loubès, sur Gironde, effectivement. Donc dis-moi, tu commences ce parcours. Moi, je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer. Tu transportes quel poids avec toi?
Alors, je ne me suis pas pesé, j'avais à peu près 15-20 kilos. Donc, c'est un peu. C'est 20 kilos, ça commence à faire beaucoup pour un voyage à pied, mais ouais. 15. Mais il me fallait un équilibre avec les réapprovisionnements. C'est-à-dire que soit je prenais peu d'aliments, mais il fallait que je me ravitaille beaucoup.
Ou soit
je me disais, bon, je prends beaucoup de provisions, mais mon sac est plus lourd. Donc, voilà.
Tu avais une tente
Oui, j'avais une tente.
C'est quel type de tente? C'est quelque chose qui se développe d'elle-même quand tu tires dessus ou quand tu montes d'une manière plus compliquée?
C'était une tente qu'on m'avait prêtée, mais elle était assez simple
d'utilisation.
Donc, pour ma première partie du Puy-de-Sancy à Argentat, j'avais du beau temps. Et il y avait pas mal de bivouac. J'ai pas mal bivouaqué. Sauf qu'ensuite, le temps n'était plus avec moi parce qu'on a eu un printemps très humide. Et puis, passer Argentat jusqu'à la fin, et c'était un temps qui tournait plus vers le pluvieux. Mmh. Même à la Roche Gajac, j'ai vu la Dordogne sortir de son lit. J'avais envisagé de faire quelques parties en canoë, pourquoi pas. Ça m'a été impossible parce que les débits étaient trop importants au printemps. Pardon. Sur la Dordogne.
Tu apportes une vingtaine de kilos, tu dis. Est-ce que j'avais vu une émission sur Arte un jour, je me permets de citer ce média. Monsieur qui faisait de la randonnée sur des parcours assez longs, il avait son sac à dos, mais il avait un sac ventral où il disait que c'était pour équilibrer le poids entre le dos et le... Qu'est-ce que t'en penses, toi ? T'as fait cette expérience, non ?
Alors moi, j'avais un très bon sac de randonnée qui m'a été offert par mes parents. Donc je les remercie. Et moi, j'avais des sortes de lanières qui se fermaient sur le torse et mon ventre. Donc ça répartissait un peu le poids aussi.
D'accord.
Voilà, par rapport à l'arrière.
Qu'est-ce que tu peux conseiller, en tout cas toi qui l'as vécu de près, qu'est-ce que tu peux conseiller comme alimentation pour ce genre de parcours?
Je dirais une très bonne hydratation.
Boire beaucoup.
Voilà, oui. Boire beaucoup. Moi, j'avais des gourdes filtrantes OCO, donc j'ai bu l'eau de la rivière, bu de l'eau de la Dordogne.
De l'eau, des gourdes OCO.
OCO, voilà.
C'est quoi ? Explique-nous.
C'est une technologie étudiée par la NASA et qui permet de boire n'importe quelle eau, même stagnante. Et donc j'avais ces gourdes-là. Et...
Même c'est démarré ?
Oui, mais moi je prenais pas le risque, prenais l'eau courante quand même, mais voilà, j'avais ces gourdes. Et du coup, comme alimentation, beaucoup de fruits. Et en général, moi je prenais pas le temps de manger en milieu de journée, je marchais. Donc je mangeais.
Le matin,
avec le campement. Donc je mangeais le matin avant de partir, beaucoup. Pas trop le midi, je grignotais. Et vers 16-17 heures, je commençais à avoir faim, 18 heures, donc je me posais et je mangeais.
Tu marchais combien d'heures par jour à peu près, en moyenne ?
Alors en distance, j'étais à 20 km, mais en heures...
C'est pas du tout pareil,
Ça dépendait, il y avait des jours où je visitais, j'avais envie de prendre du temps, je mettais le hamac entre deux arbres, et il y a des jours où je marchais. Donc c'était du matin vers 9 heures jusqu'à 18 heures.
D'accord.
À 16 heures, je commençais à, entre guillemets, m'inquiéter pour chercher un endroit où dormir. Mais pas avant 16 heures, j'avançais.
Tout à l'heure, tu parlais que tu as une grosse partie du parcours dans des conditions météo avec de la pluie. Est-ce que ça a été vraiment gênant, ça, l'humidité ? C'est pas très bon pour la santé, l'humidité. C'est dur en plus, ça ralentit le rythme, ça coupe un peu le moral aussi, non ?
Ah oui. Dans mes carnets, j'avais noté certaines journées quand c'était un enfer liquide, je disais. ça peut miner le moral, mais pareil, il y a des gens qui s'arrêtent. Moi, j'étais équipé, j'avais une cape qui protégeait tout mon sac. Moi, j'étais plus inquiété pour mes affaires, mes carnets, mes livres j'avais pris avec moi que ma personne. Mais même en étant trempé, après, on a froid. Après, si on veut dresser un bivouac, toutes les affaires sont mouillées, on dort mal.
Dans des moments comme ça difficiles à cause de la pluie, est-ce que tu as eu le besoin à un moment donné de se dire, allez, j'en ai marre, je vais sonner chez des gens qui puissent m'autoriser à dormir soit dans la grange ou même me prêter le gîte peut-être, non ? C'est arrivé ?
C'était pas pour m'abriter, mais pour manger. Par exemple, malgré le réapprovisionnement des pods avec Itinerev, ce qui a été la partie, je veux dire, la plus difficile du parcours, c'était quand même les gorges de la Dordogne. Donc, arrivé à Saint-Martial d'Entraigues, Saint-Martin-la-Méanne, il me restait plus beaucoup de nourriture, je mangeais que du riz. Et il m'arrivait d'aller oser demander à des gens un repas. Et puis, on a toujours accepté mes demandes. Voilà, que ce soit pour quelque chose.
Quel était le retour des gens que tu rencontrais ? Est-ce qu'ils te disaient le regard qu'ils portaient sur une personne comme toi, qui voyageait, qui part à pied ? Ou est-ce que c'était un questionnement pour eux ou, comment il t'en faisait part, comment il vivait parce que c'est étonnant de quelqu'un que l'on voit, bon je pars du Puissancy jusqu'à l'océan à pied, c'est quand même pas rien, même si c'est dans ce que je disais tout à l'heure, il y a un phénomène de mode aussi, mais toi c'était pas ton cas. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, des gens qui te posaient des questions?
Oui, Ben, ils demandaient les raisons de pourquoi j'étais parti, mais ce qui les étonnait le plus, et c'était un peu la peur. Ils se demandaient, mais pourquoi tu es parti tout seul? Pourquoi je suis parti tout seul? Et ouais, ils avaient un peu peur pour moi aussi.
Donc il y a cette bienveillance. C'est beau ce que tu dis là, quand même.
Les gens, oui, ils s'inquiétaient pour moi. Et ils m'offraient à manger. Ils avaient peur que je manque de quelque chose. Que... Oui.
Voyez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, dans ce monde éclaté, personne ne peut contester ce que je dis, les difficultés de cette société. Je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que le monde aille mieux. Ce que nous dit mon invité, Jimmy Marx, c'est qu'il y a des gens qui se faisaient comme bonheur de lui donner quelque chose, de l'accueillir à bras ouverts. Je pense que c'est un... Cela, c'est à dire... On nous parle souvent de malheur, on ne parle pas assez de belles rencontres que l'on fait et des gens qui n'hésitent pas à tendre leurs mains. Je tenais à signaler cela. Mmh. Jimmy, tout à l'heure, mon collègue, parlait des pieds. Donc, ça va bien aller bien au-delà des pieds. Ton corps qui n'était peut-être pas suffisamment habitué à faire un parcours aussi long, comment ton corps l'a vécu cela? T'es rentré avec des douleurs, t'es rentré avec... Même si t'es jeune.
Dès le premier jour, j'ai eu une douleur à la hanche. Donc ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et en fait, c'était une question que mon corps s'habitue. Puis le corps est quand même bien fait parce qu'au bout de 3 jours, toutes les douleurs que des premiers jours, tout s'est arrêté. Puis après, bien sûr, il y a eu les ampoules que j'ai soignées avec des pansements seconde peau qu'on trouve en pharmacie.
Oui.
Et voilà, après, globalement, ça allait.
Qu'est-ce que tu conseilles comme type de chaussures pour tes pieds?
Alors,
pour les pieds, pardon.
Alors, de bien s'équiper. Moi, j'avais des Merrell, la marque Merrell. C'était une bonne marque de chaussures.
C'est des chaussettes particulières avec du coton ou d'autres tissus très particuliers?
Oui, j'avais pris je me souviens plus, mais j'avais pris des chaussettes spéciales que je mettais sur des magasins de sport qui vendaient ça. Donc,
d'accord, ouais. D'accord. Tu changes de soquettes ou de chaussettes ou les combien dans ces cas-là?
Eh bien, déjà, moi, je prenais pas beaucoup de vêtements que je lavais moi-même. Et que je faisais sécher, soit en remettant mouillé, ça séchait sur mon corps, soit quand il y avait un rayon de soleil le soir au campement.
Sauf pour les chaussettes.
Oui, voilà. Voilà. Et les chaussettes, j'en avais pris suffisamment et, parce qu'elles s'abîmaient aussi.
Ah,
elles,
oui.
Elles se trouaient à force de marcher.
On va se faire une petite pause, Maurik, et on se retrouve avec mon invité qui est...
Ton invité, oui.
Je trouve que c'est un sujet qui est merveilleux, qui est passionnant, d'ailleurs. Il nous apporte un peu de soleil dans ce monde triste. Il nous apporte aussi un peu de découverte, un peu de rêve. Il nous apporte cette part de rêve. Et on va rêver avec quoi musicalement, Aymeric?
Eh bien, un beau voyage, celui d'Ulysse, chanté par Georges Brassens, par exemple.
Par exemple, un bel exemple. Merci.
Voilà, une belle illustration. On retrouve Jimmy Marx avec Lulu. Juste après Brassens, Jimmy Marx qui a longé la Dordogne sur 480 km. C'était à partir d'avril 2024. Allez, on écoute Brassens, on retrouve Lulu et Jimmy juste après.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur. Quelle est belle la liberté, avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps. On vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Heureux qui comme Ulysse, chanté par Georges Brassens. Certaines et certains d'entre vous la connaissent par cœur, cette chanson. Okay. Surtout notre ami Lulu.
C'est une part de rêve, effectivement, ce que je disais tout à l'heure. Brassens, merci Brassens.
Merci Brassens, vous écoutez bien D'ici et d'ailleurs, qui est de retour en ce tout début d'année 2025 avec Lulu qui reçoit aujourd'hui Jimmy Marx.
Jimmy, tu nous parlais un peu de ta manière de marcher avec les vêtements, les éléments nécessaires aussi pour marcher, ton sac à dos, l'alimentation qui est importante. Est-ce que tu avais fait des essais de parcours de marché pendant ne serait-ce que deux jours avant de partir? Petit entraînement, quoi. Non,
eh bien, vu que j'habitais l'île d'Oléron, je m'étais mis en tête de faire le tour de l'île d'Oléron. Donc c'était, je ne sais pas combien de temps, mais au final je ne l'ai pas fait. Mais je faisais beaucoup de courses à pied l'année où j'ai fait ce voyage, l'année dernière. Donc j'étais un peu...
Physiquement, déjà, tu étais en capacité de le faire.
Oui, mais le dénivelé et des vallées m'a quand même...
posé un problème.
Voilà. Ouais. Donc je m'attendais à ne pas avoir autant de difficultés que ça. Hein. Avec le poids...
Dis-moi, quand tu as accepté de faire cette émission, je me souviens très bien, c'est tout frais encore dans mon esprit, je t'imaginais la veille du départ. Est-ce que tu as bien dormi la nuit, la dernière nuit avant le départ,
hein? Eh bien, je suis en train d'écrire le livre, je l'ai mentionné ça. J'avais l'excitation du petit garçon. L'excitation du petit garçon qui part en voyage scolaire, mmh. Qui est tout excité, qui n'arrive pas à dormir parce qu'il va faire son voyage scolaire. Voilà. Donc, j'ai pas très bien dormi, mais il y avait plein d'émotions qui
arrivaient au fur et à mesure.
Voilà. Et que ce soit des deux côtés, donc c'était un peu de peur aussi, mais aussi beaucoup d'excitation et de savoir qu'est-ce qui allait bien découler du choix que je venais de faire.
Les premiers pas quand tu commences le premier jour sur le puits de Sensil, c'est ça nous ramène à notre petitesse, l'être humain vis-à-vis de la montagne qui est immense, la puissance des éléments aussi qu'il y a dans la nature. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ou moi des fois j'ai l'impression quand je vois des gens qui font certaines, comme ce que je disais tout à l'heure, des trekking et tout, qui montent sur la scène, ils se disent peut-être qu'ils ont un sentiment de toute puissance. Là c'était pas ton cas, toi t'es une personne humble, mais...
Non, moi je me sentais plus écrasé par le décor qui était devant moi, donc que ce soit le puits de Sensi au départ, puis après on arrive l'océan Atlantique, donc une autre immensité.
Bien sûr.
Donc non, c'était donc avant de partir, j'avais aussi du recueillement. Donc avant de donner le coup de feu du départ dans ma tête, donc voilà, il y avait vraiment, il y a des bancs au niveau de la confluence entre la Dore et la Dogne, oui. Hein, si vous allez au Puy de Sancy. Et moi, j'ai contemplé l'émergence de la Dordogne, voilà, cet endroit-là, pendant un long moment avant de partir. Puis après, j'y suis allé.
C'est beau ce que tu dis, Jimmy. Ça veut dire que tu te mettais en position d'une... de ce que je disais tout à l'heure, de respect. Là. Les éléments qui portent tes pas, tu leur rends d'une certaine manière un bel hommage, là, non?
Ah oui.
Ouais.
Puis le moindre rayon de soleil, la moindre Température clémente, c'est une grande forme de gratitude quand on marche pendant des heures. Voilà. Donc,
est-ce qu'à un moment donné, dans ton parcours, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il vaudrait mieux que ce soit à la maison. Est-ce que tu as eu ne serait-ce qu'une once de regret quelques secondes? Ça t'est arrivé?
Jamais de regretter d'être parti, mais en effet, il y a eu de l'inconfort.
Oui.
J'ai jamais fait autant de nuits blanches que pendant ce voyage, par l'inconfort. Ouais. Mais oui. Surtout la deuxième partie avec la pluie, je voyais les gens qui étaient dans leur voiture, qui me dépassaient, qui mettaient le clignotant, qui me dépassaient, qu'eux, ils étaient bien au chaud dans leur habitacle et que moi, j'étais trempé jusqu'aux os.
C'est le revers de la médaille, ça. Ouais.
Voilà. Non, c'est ça. Et au tout début, que je voulais suivre la Dordogne au plus près de l'eau, je me suis, dans les gorges de la Vège, je me suis un peu retrouvé coincé. Donc, j'ai dû traverser des forêts inconnues pour retrouver un chemin. Je me suis perdu plusieurs fois. Donc, là aussi, je me suis demandé, mince, qu'est-ce que je fais là?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon.
Ouais, parce que en fait, tu ne peux pas suivre tout le temps la rivière de son bord parce qu'il y a des éléments qui l'empêchent.
Voilà, ben là, dès le départ, les gorges de la Vèze.
Ouais.
Oui, ça m'a bloqué, mais après je suivais que ce soit en haut ou en bas.
Quand tu as fini ce qu'on appelle la haute vallée de la Dordogne, que la Dordogne attrape la plaine, après sur le Lot, après plus bas, je voudrais te lire par rapport à ça, ce que Élisée Reclus, à un moment, on parle. Il se retourne sur les monts derrière lui. Est-ce que tu t'es retourné, toi, de te dire, ça y est, j'ai quitté la montagne et je vais vers un autre monde, le monde de la plaine. Est-ce que tu as eu cette sensation de te retourner?
Ah oui, je me retournais beaucoup. Je m'arrêtais beaucoup pour contempler le paysage. Parce que je me disais, il va changer. Il va forcément changer.
Bien
donc,
sûr.
Autant profiter de ce que je vois là, en ce moment même. Donc, je m'attendais à ce qu'il change vite, parce que très vite, la Dordogne aussi se modifie. Donc, je prenais le temps d'observer.
Alors, si tu me permets, je vais te lire une petite phrase de justement Élisée Reclus dans son livre, je le répète, « Histoire d'un ruisseau et histoire d'une montagne », où il explique ceci. « En m'éloignant des monts que j'aimais et qui s'enfuyaient loin de moi, je regardais souvent en arrière pour en distinguer les formes amoindries. » Les pentes se confondaient peu à peu en une même masse bleuâtre. Les larges entailles des vallées cessaient d'être visibles. Les cimes secondaires se perdaient. Le profil des hauts sommets se dessinait seul sur le fond lumineux. Ce livre, je l'ai lu il y a pas mal d'années. Je l'ai redécouvert il y a quelques mois. Et justement, je repensais à cette phrase quand tu m'as dit que tu avais fait ça. Et... effectivement, là, on fait pas ça par hasard, quoi. Mmh. On vient de quelque part, toi tu viens de cette haute vallée de la Dordogne, et tu es parti vers la plaine avec un autre monde. Mmh. Est-ce que tu as ressenti cette différence, au-delà de l'altitude, cette différence minérale aussi? On passe d'un pays de volcanique, de granit, à la plaine avec du grès, du calcaire. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a titillé au fond de toi, quoi, de voir ce changement de monde?
Ah oui, puis le changement arrive assez vite, hein. En quelques jours, tout peut se modifier, les préoccupations des gens ne sont pas les mêmes. À bord les orgues, les gens ont des fois une inquiétude pour le barrage, mais oui.
Oui, bien sûr, tu as découvert des lieux que tu ne connaissais pas, bien sûr.
Non, mais j'avais aussi, ça remonte de loin, parce que même en étant au collège à Argentat, je me suis toujours interrogé, qu'est-ce qu'il y avait en amont et en aval de la rivière? Parce que nous, on ne connaît qu'un tronçon la rivière, mais qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après? Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis parti à...
Chères auditrices, chers auditeurs, notre invité est une personne curieuse, c'est tout à son honneur, et surtout, elle cherche non pas une vérité, mais les vérités de la vie et de la nature. Est-ce qu'il y a des villages, des lieux, des villes qui t'ont marqué dans ce parcours, comme Bergerac, qui est une ville chargée d'histoire? Je me permets de dire que c'est une belle petite ville en Dordogne. Cette rivière Dordogne nous amène tellement de belles choses à voir. Raconte-nous un peu ce que des choses qui t'ont peu secoué au fond de toi, ou la beauté des choses, comme c'est que tu aimes la nature. Vas-y.
Ben moi j'ai beaucoup aimé la chapelle des Manants vers Port-Dieu.
Oui, sur la route Dordogne, voilà. Sauvage. Ouais.
Voilà, et c'est des communes qui ont été noyées aussi par le barrage. Donc j'ai été, même toutes les vallées de la Dordogne, je me suis senti vraiment tout petit dans ce paysage. Et en fait, quand on fait un voyage au fur et à mesure des villes, chaque ville a son, on a un souvenir très précis sur chaque ville. Et par exemple, à Bergerac, c'est là où je me suis assis sur un banc, et c'est là que je me suis rendu compte que ce voyage me faisait grandir autant que la rivière grandissait elle-même.
D'accord.
Donc, oui.
C'est une philosophie d'existence qu'on attrape au fur et à mesure qu'on avance.
C'est ça. Et puis on a le temps de faire mûrir ses pensées quand on marche pendant des heures dans la solitude.
En préparant cette émission avec mon invité, nous parlions justement de la marche. Et on disait justement tous les deux que l'être humain, il était fait pour marcher, non pas pour courir. Quand on marche, on se fait du bien, mais surtout en même temps, on pense à la vitesse de la marche, comme on marche. Quand on court, on n'a plus le temps de penser, ça va trop vite. Et ce que tu dis, justement, je pense à ça, parce que effectivement, à Bergerac, tu t'es élevé d'une certaine manière. Donc ton voyage, en fait, tu t'es dit, je ne le fais pas pour rien, quoi. Ça m'apporte quelque chose.
Oui, oui. Puis c'est pas qu'à Bergerac, c'est pendant tout le voyage. Le voyage est aussi important que la destination. Donc, oui. Et
c'est pas la fin du voyage le plus important, c'est la manière dont on fait le voyage, donc à ton avis.
Oui, mais c'est ça. C'est ça, chaque moment compte, que ce soit les plus compliqués comme les plus heureux. Donc chaque moment, il y a une philosophie un peu du voyage, c'est de partir du principe que tout est une opportunité. Bon, très bien, on m'a fermé cette porte, mais c'est une opportunité d'aller bivouaquer avec un point de vue magnifique. Voilà, voir la perspective comme tout est une opportunité, c'est très intéressant.
Dis-moi, tout à l'heure, tu nous parlais de certaines personnes que tu avais rencontrées, qui t'avaient bien accueilli. Est-ce que tu as gardé des contacts avec certaines personnes rencontrées justement sur ce parcours?
Ah oui, plusieurs. Je leur ai souhaité la bonne année pour cette nouvelle année. Notamment un monsieur qui, vers la fin de mon voyage, qui avait rejoint la Bretagne à Bordeaux, à peu près, je ne sais plus trop où c'était, mais pour aller faire la surprise à ses petits-enfants. Pour arriver, il avait prévenu à ses petits-enfants qu'il allait arriver, mais il n'avait pas prévenu à pied. Et tout le monde pensait le voir débarquer en voiture, et puis voilà. Et nous, on s'est rencontrés sur un gîte pèlerin. Donc pareil, les pèlerins s'interrogeaient, parce que tout le monde faisait Compostelle. Et puis ils m'ont dit que c'était assez atypique ce que je faisais. Donc j'ai fait de belles rencontres, même en demandant le gîte et le couvert. J'ai fait de magnifiques rencontres.
Tout ça, tu l'as noté sur tes carnets de voyage.
Voilà.
Donc on reparlera à la fin de l'émission, justement, l'ouvrage que tu veux éditer par rapport à ce que tu as vécu. On se refait une pause musicale, Aymeric.
Bien entendu.
Et on se retrouve avec notre invité. Après.
Avec notre invité d'aujourd'hui dans l'émission d'ici et d'ailleurs avec toi, Lulu. Il s'agit de Jimmy Marx. Pour la pause musicale, je vous propose un petit peu de jazz. Avec Benny Goodman, le clarinettiste, pour commencer, le titre All the Cats, John Inn. Bel après-midi à l'écoute de Bram FM. À tout de suite.
Thank you. Abraham FM.
Thank you.
Vous écoutez Bram FM à Palazinge.
Et après ce long intermède de jazz, vous écoutez toujours Bram FM, il est 15h. D'ici et d'ailleurs, la suite avec Lulu et son invité du jour, Jimmy Marx. On reprend la conversation entre eux.
Et c'est reparti, merci Aymeric. Donc oui, tout à l'heure, je vous parlais d'un livre donc, que je me suis servi de, avec deux ou trois éléments de réflexion de ce monsieur d'Élysée Reclus. Reclus, qui, je dois en parler effectivement, était un géographe, né en 1830 et décédé en 1904-1905. Élysée Reclus, qui était un grand géographe, le plus grand géographe de son époque, et malheureusement, c'était un grand humaniste, il a participé à la Commune de Paris, il ne supportait pas de voir des gens, des enfants notamment, qui mouraient de faim, et ce qui a fait son engagement humaniste en faveur des communards. Et Élysée Reclus, le fait d'avoir participé à la Commune, il s'est retrouvé emprisonné, comme beaucoup, et après il s'est exilé en Suisse, il a payé très très cher, il a cassé sa carrière, parce qu'il était humaniste. Donc c'est une personne à qui on peut rendre un hommage des plus vibrants, et surtout, malheureusement, de par son parcours de communard, il n'est pas connu en France. Les milieux universitaires l'ont un peu squeezé. On parle de Reclus aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, dans beaucoup de pays. Quand on parle de géographe, on parle de Reclus. En France, il est quasiment presque inconnu, à part les milieux universitaires. C'est bien dommage. Je ne peux que vous souhaiter et de vous porter à lire l'histoire d'un ruisseau suivi de l'histoire d'une montagne d'Élysée Reclus qui est édité chez Artaud Poche. C'est un Élysée Reclus, en plus de cette capacité d'avoir étudié la géographie, c'était un des premiers grands écologistes. Il avait un respect immense pour tout ce qui touchait la nature. C'est un des fondateur de l'écologie moderne. Voilà. Donc, une fois de plus, on ne peut que le remercier. Jimmy, dans ton parcours pour rejoindre l'Atlantique, est-ce que tu as eu des moments où tu as eu besoin de t'intéresser au patrimoine, au-delà des marchés, quand on a les yeux qui se portent sur des monuments, les styles de maisons qui changent entre le puits de Sancy et l'océan, bien sûr, il y a X styles de maisons. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a porté un peu à t'intéresser à cela?
Ah oui, tout à fait. J'ai essayé d'avoir un savant équilibre entre avancer tous les jours un petit peu et aussi visiter. Donc, par exemple, j'ai visité le barrage de Bort-les-Orgues, où j'ai une anecdote assez marrante à ce sujet. C'est que je m'inscris pour visiter auprès du barrage de Bort-les-Orgues pour le visiter. Et la guide trouve ça bizarre qu'il y a le même nom Marx qu'il y a d'autres visiteurs qui s'appellent Marx. Et en fait, ma sœur a choisi ce même jour pour visiter avec son conjoint le barrage de Bort-les-Orgues. Et on s'est retrouvés comme ça avec ma grande sœur dans les entrailles du barrage de Bort-les-Orgues.
Alors, ce n'était pas prévu.
Ce n'était pas prévu du tout. Et elle croyait que j'étais un peu plus haut ou un peu plus bas, et ça s'est fait comme ça. Mmh. Donc assez... Parce que pareil, j'essayais je donnais des nouvelles à ma famille, mais j'essayais aussi de pas utiliser mon portable, passer du temps dessus, vraiment de me couper. Et après, j'ai visité beaucoup après la Dordogne, très touristique, donc à Dôme, la Roque Gajac, Castelnau, voilà tout ça.
Est-ce que tu as dans tes notes de voyage, justement, tu abordes ce sujet du patrimoine, du style de construction et de l'aspect historique aussi des villes? C'est quelque chose qui t'intéresse, ça, la découverte d'un peu de l'histoire locale que tu traverses?
Oui, je me suis un peu renseigné, mais j'ai plus pris des notes sur mon voyage, et ça va être le travail de cette année. Donc, en parallèle avec la rédaction du livre, c'est tout un travail de recherche bibliographique sur la Dordogne, avec par exemple les archives départementales, où je vais essayer de pêcher quelques anecdotes à droite à gauche pour aussi agrémenter sur mon livre quelques faits historiques.
Tu travailles donc avec les archives départementales, c'est une belle initiative, effectivement. Est-ce que tu as eu dans ton parcours des... Il y a eu des coïncidences où tu t'es retrouvé avec dans des endroits où tu passais, où il y avait des manifestations culturelles au même moment.
Pas tellement, juste à mon arrivée au phare de la Coubre, à mon arrivée, il y avait une exposition de peinture avec un journaliste et c'est tombé que je suis arrivé à cet endroit-là et pareil, voilà, sinon pas vraiment.
Tu as ce journaliste, tu lui as dit que tu avais fait ce parcours.
Oui, oui, mais vu comment j'étais habillé, trempé, les gens ils ont bien vu que je revenais de loin.
D'accord, tu avais ton sac à dos.
Voilà. Et puis même quand je traversais des grandes villes, ça faisait un peu contraste vu comment j'étais habillé par rapport, par exemple, quand j'ai traversé Bergerac ou que j'ai traversé Libourne. Mais j'étais avec mes chaussures de marche, pantalons parfois troués.
À Libourne, il y a le quai des Argentats qu'on appelle, étant donné qu'il y avait eu les gabariers.
Oui.
Libourne, quai des Argentats. Dis-moi, tu as contourné Bordeaux ou tu es rentré dans Bordeaux ?
Non, parce que moi j'ai vraiment suivi la Dordogne, donc c'était plus au nord de Bordeaux, c'était vers Saint-Loubès.
Oui.
Mais j'ai fait deux... au niveau du bec d'Ambès, donc, là où vraiment la Dordogne et la Garonne se rejoignent,
oui.
J'ai fait les deux côtés. Donc j'ai fait le côté rive gauche jusqu'au bec d'Ambès, où après j'ai dû revenir en stop parce que j'étais arrivé à la pointe.
Et oui,
bec.
Parce qu'après ça se coupe.
Il n'y a rien, ouais.
Oui.
Et après j'étais rive droite, donc où je suis arrivé à Blaye et puis après un peu plus haut.
Donc tu es monté sur l'océan par le Blayais.
Voilà.
Avec ces endroits vallonnés, là il y a des très bons vins. Tu as dégusté du bon vin.
Oui. Ben, j'essaie de goûter un peu aussi les produits du terroir. Hein. J'ai traversé le pays de la noix, le Quercy.
Bien sûr, oui. Ah oui, bien sûr, il y a des spécialités tout le long du parcours, là.
Mm.
Oui. Effectivement, le Blayais, là, c'est une très très belle région, oui, qui coupe un peu du reste du Bordelais qui est plus plat. Et le Bordelais, on approche l'océan par des petites collines, sont pas très hautes, mais qui donnent un esprit d'évasion aussi, un peu. Peut-être que tu l'as ressenti, ça.
Ah oui, à Méché sur Gironde.
Méché, oui.
C'était aussi un lieu que j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'était magnifique. J'ai beaucoup apprécié. C'était un des coups de cœur du voyage.
Un coup de cœur du voyage. Oui,
oui. Même aussi, ouais. j'y ai pas parlé, la Roque Gajac, magnifique, dôme,
ouais,
avec le château contre la falaise, là, c'était quand même assez impressionnant. J'écris aussi du fantastique, j'aime beaucoup le médiéval fantastique, et là c'est vrai que c'est très inspirant aussi quand la Dordogne avec ses châteaux, il y a beaucoup à...
Donc tu as mêlé l'histoire avec ta démarche pédestre.
Voilà.
Si on peut dire.
Voilà. Ben, ce voyage, il a réuni tout ce que j'aime, que ce soit l'effort physique, l'écriture et la nature.
Il faudra recommencer.
Et l'aventure.
Il faudra recommencer. En plus, je crois, Emmerich aussi, il regarde Jimmy, mon invité, avec des yeux de grande découverte. Et tu fais partie de ces gens dans ce studio qui font du bien. Voilà. Tout simplement. La radio, c'est aussi fait pour ça, Emmerich, tu le sais aussi bien que moi, mettre en lien des gens qui sont peut-être parfois différents, mais qui nous apportent beaucoup de choses.
Je peux te demander quel âge tu as, parce que tu es un jeune homme, hein, il faut quand même le préciser à nos auditeurs.
J'ai 27 ans.
Voilà, 27 ans, et voilà, le projet a été fait, 480 km entre les sources de la Dordogne et l'Atlantique. La pure classe quand même, hein, franchement. Il faut dire qu'il a 27 ans quand même, hein. C'est un jeune homme qu'on reçoit.
Et oui, face à un vieux comme moi.
Non mais mine de rien, c'est intéressant à savoir. Et oui, je suis émerveillé par le parcours et puis par la simplicité de Jimmy, tout simplement.
Jimmy, pour en revenir à ce parcours, Quel regard tu portes, parce que d'une certaine manière, tu as fait un peu tourisme en t'évadant pédestrement, mais quel regard tu portes dans une société où on en fait du sous-tourisme, du sur-tourisme? On voit ici et là des reportages où on entend dans des radios, il y a tellement de touristes que les gens, les locaux, ils en ont marre, ils ne peuvent plus y vivre, ils ne peuvent plus se loger, ça devient trop cher. Toi qui es jeune, comme dit Aymeric, qui a envie de marcher à pied, qui a une forme de respect vis-à-vis de la nature, quel regard tu portes par rapport à ça? Ou on dégueulasse tout, un peu l'être humain, hein, pour faire court, quoi.
Oui, il y a une certaine fragilité de la nature où il faut... le surtourisme détruit beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'était le contraste que je pouvais avoir au fur et à mesure de mon voyage entre des vallées encaissées où il n'y a personne, où c'est très calme. Puis après, je passe à Bergerac ou à Libourne où je vois les gens pressés qui ont leur rythme, qui vont à fond. Et j'étais bien content. En fait, de faire ce voyage seul, comme ça j'avais mon propre rythme. Et je suis quand même quelqu'un qui essaye de ralentir, de prendre du recul. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de suivre le rythme de la vie qu'on a aujourd'hui.
Ouais, t'es pour le ralentissement de notre façon de vivre, tout simplement. Avoir le temps, c'est un luxe, quoi.
Ou chacun
c'est...
son rythme.
Ouais.
S'il y en a qui sont...
Voilà. C'est beau ce que tu dis, son propre rythme. En fait, c'est se donner un respect vis-à-vis de soi-même, non ? D'une certaine manière.
Oui, oui. Parce que peut-être que nous, on n'est pas adapté à le rythme qu'on nous impose.
Pour en revenir à l'histoire, est-ce que ça t'a donné envie de rechercher, d'aller un peu plus profondément dans l'histoire locale, aussi bien sur la partie de la Dordogne d'où tu viens, toi, de la Chantrie et tout le long jusqu'à l'océan ? C'est quelque chose qui t'interpelle, l'histoire, ou des individus, l'histoire du pays, l'histoire de la construction et...
Oui, et bien on peut dire que ce voyage m'a parce que j'ai fait beaucoup de saisons, donc je suis parti en Alsace, je suis parti sur l'île d'Oléron, j'ai vécu 2 ans, et je pensais que la découverte, ça c'était découvrir d'autres régions. Mais là, ce voyage m'a permis de redécouvrir la région d'où je suis originaire. Donc, je suis originaire de l'Axintrie, de Saint-Privat. Et ça m'a ouvert des portes, mais chez nous, ici. Parce que suite à ce voyage, j'ai pu travailler avec l'Office de tourisme d'Argentat cet été, en juillet-août.
Grâce à ce voyage.
Grâce au voyage. Et du coup, j'ai... je me suis redécouvert dans cette région, voilà.
Sur le CV, ça l'a bien fait, en fait, c'est ça, en gros.
Oui, et puis voilà.
Parce que ça marque, hein, moi, j'imagine, je suis patron d'office de tourisme, je vois un CV bien comme sûr. Le tien, je me dis, oula, ça m'intéresse, je veux quand même le rencontrer, quoi, pour voir, histoire de quoi.
Mais les offices de tourisme aussi, c'est le point d'information pour les randonneurs.
Oui,
pour quiconque veut faire un voyage à pied, on a les informations regroupées en office de tourisme.
Bien sûr, bien sûr. Je t'imagine, quand tu es parti du Puy-de-Sancy, tes parents, ils se sont fait du souci, quoi, non ?
Oui, beaucoup. Ils avaient peur pour moi. Et j'ai essayé de les rassurer comme je pouvais.
Et maintenant, avec du recul, ils te pousseraient à repartir, ou ils te laisseraient les mains libres totales, mais même si tu as cette liberté-là, bien sûr.
Oui. Après, vu que j'avais fait ma pause à Argentat, que j'étais retourné voir mes parents, le fait que je fasse 200 km depuis de Sancy à Argentat, et ils ont vu que tout s'était très bien passé, ça les a rassurés. Donc ils ont été rassurés pour la pause, la mi-temps entre guillemets du voyage. Puis après, quand je suis reparti direction Beaulieu, Carénac et plus bas, mes parents étaient assez apaisés, et puis ça les avait rassurés, quoi, qu'il m'arrive rien.
Dis-moi, sur un parcours comme ça, combien on peut faire maximum de kilomètres par jour sans s'épuiser, de manière que le lendemain on puisse remettre un pied devant l'autre ?
Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Mmh. Ça dépend du dénivelé, je pense. Ça dépend de la condition physique de la personne. Mais 15, 20 kilomètres. 15, oui, 20 kilomètres. 15, tranquille.
D'accord.
20. Moi, j'avais une moyenne pour mon voyage à pied de 20 kilomètres par jour.
Mmh. C'est ce que font les grands randonneurs à peu près, oui. Alors, on en parlait justement en préparant cette émission avec mon invité, Jimmy. Voyez-vous, l'histoire du voyage, au-delà de l'aspect physique, il y a le côté psychologique, on en parlait tous les deux. Et il s'avère qu'il y a quelques années, je m'étais imaginé un être humain qui ferait le tour de la Terre à pied, à l'équateur, s'il n'y avait pas l'océan, s'il y avait un chemin à l'équateur, la partie la plus large, 40 000 km, 20 km par jour, 5 ans. 5 ans ? On ne s'imagine pas dans notre esprit ce que ça représente la Terre qui est immense bien sûr, mais c'est petit en même temps.
Et encore tu dis 5 ans sans s'arrêter.
Oui, mais 20 km par jour, tout être humain normalement constitué l'est fait. Ça veut dire que tout à l'heure avec Jimmy, il nous parlait justement de la nature. Et je pense que c'est pas rien, on doit s'arrêter un jour les humains sur ce sujet, sur cet aspect des choses. C'est-à-dire que on est capable en 5 ans de faire le tour de la Terre. C'est-à-dire que la Terre, même si elle paraît grande, elle est petite. 5 ans, c'est rien dans une humanité. Donc c'est à nous de réfléchir et qu'est-ce que ça représente un individu qui met 5 ans pour faire le tour de la planète qu'il habite, ce qui n'est rien du tout. C'est pour ça, Jimmy, j'étais heureux de vraiment t'inviter parce que tu représentes ce qu'il y a de plus humble, la marche. L'être humain, il faut quand même savoir, c'est pas toi qui me diras le contraire, Jimmy. C'est récent que l'on aille aussi vite dans l'histoire de l'humanité. C'est une goutte d'eau qui vient juste de tomber par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que on prend des trains qui roulent à 300 km/h, des avions, des voitures, et alors que l'être humain a toujours marché. S'il fallait 6 mois pour aller d'un point à un autre, il prenait les 6 mois. S'il lui fallait un an, il prenait ce un an. Et toi, à travers ton expérience, tu nous apportes j'ai presque envie de dire cette valeur-là. Cette valeur-là. Et c'est pour ça, c'est quelque chose qui te pousse à continuer, à repartir, à faire d'autres découvertes. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais moi, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut vivre à son rythme. Et le fait que je voyage seul, en fait, ça m'a permis aussi je dépendais du rythme de personne et j'étais maître...
Du rythme de la vie.
Voilà, j'étais mon maître à bord, seul décisionnaire et moi, ça me convenait. Les gens, ça les interrogeait que je sois parti seul. Ah, mais il n'y a personne avec toi. Mais moi, ça me convenait très bien, surtout sur cet aspect-là. Voilà.
Tu travailles à Tulle, à Planète Nature, qu'on appelle un magasin bio.
Oui.
Donc, tu es bien passé pour parler de respect de la nature et des produits de la nature.
Oui.
Tu peux nous en parler. Est-ce que ça t'a aidé aussi de rentrer dans ce magasin comme employé, le fait d'avoir fait ce parcours ou...
Oui, tout à fait. Mais j'ai fait mes études à Neuvik, au lycée agricole, protection de la nature. J'ai un peu travaillé dans le domaine, avant de m'en éloigner, où j'ai travaillé en camping ou autre. Et c'est vrai que là, je suis content d'avoir retrouvé un travail en accord avec mes valeurs, donc sur le bio, le respect de la nature.
On viendra te voir alors.
Bien sûr, on ne va pas tarder à terminer cette émission. Jimmy, est-ce que tu as des gens que tu as envie de remercier pour... par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu as fait?
Oui, ma famille, mes parents et mes amis. Mes amis Sophie, Com et Victorine qui ont été très présents pour mon départ, hein, pour m'aider à faire ce fameux grand pas du départ, ce saut dans l'inconnu qui n'était pas évident, je tiens à le signaler.
Com qui est à la Confédération Paysanne. Ah oui, voilà. Que l'on connaît à Bram FM.
Voilà. Et puis, ils m'ont soutenu, ils ont été là dès le début, et ils ont vu les étoiles qui brillaient dans mes yeux quand je leur ai parlé de ce projet. Ils m'ont dit, mais le lâche pas, fais-le, va au bout, ça fait peur, mais il faut y aller. Et je suis content d'avoir eu ce soutien.
Les étoiles qui brillaient dans mes yeux, c'est beau comme formule. Dis-moi donc, Jimmy, tu vas sortir un livre consacré à ce que tu as vécu, ce que tu as fait.
Voilà.
Tu peux nous en parler quelques mots ?
Oui, donc ce sera un roman récit de voyage sous forme d'un journal de bord et avec un peu mes pensées quotidiennes, mon avancée. Je vois un peu ce livre comme un gâteau, en fait. Il y a différentes strates.
Un millefeuille.
Voilà, un millefeuille. Il y a mon histoire, il y a la Dordogne.
C'est ton odyssée, quoi.
Peut-être. Oui, mais voilà, j'essaye de le faire le plus complet possible. Et puis...
Un millefeuille littéraire, il nous donne l'eau à la bouche. On a envie de déguster de la littérature.
Non, mais il fait très bien sa publicité. Hein.
Ah, oui,
millefeuille, c'est bien. Oui. Bah, c'est vrai que donc, l'heure du goûter approche en plus. Donc,
et il sortirait quand, ton livre à peu près ?
Ben, je me donne encore un an de recherche pour glaner le plus d'infos possible sur la Dordogne.
Oui. Ouais, parce que tu fais avec les archives et tout. Hein,
voilà,
ça,
et écrire. On partirait sur 2026.
Si tu as le jour que tu voudras venir parler de cet ouvrage, la porte te sera ouverte, Jimmy. Si un jour, je pense que à t'écouter, tu repartiras à pied un jour.
Oui.
Tu redécouvriras d'autres lieux et tu rencontreras d'autres personnes. Et là aussi. Bram FM sera à ton écoute.
Eh bien, ça me fait très plaisir d'être là. Merci à vous, à toute l'équipe de Bram FM.
Nous avons reçu un invité qui est. Nous avons reçu un invité qui est généreux, généreux de vie, généreux de belles émotions. Merci Jimmy, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au nom de tous les auditeurs et de tous les auditrices, je te remercie. Je te remercie, Aymeric.
Avec plaisir, Lulu.
Et ce fut un grand bonheur de remettre les pieds dans ce studio. À voilà. Très bientôt, dans 15 jours.
C'était un petit peu comme conduire une gabarre avec toi comme grand navigateur. Voilà, et Jimmy en témoin de sa navigation sur la Dordogne. Enfin bon, il n'a pas navigué, il a marché, mais bon, on va pas chipoter. Ouais. Merci à tous les deux. C'était très agréable de suivre votre échange. J'espère que les auditrices et les auditeurs ont été ravis de le suivre également. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur bramfm.com à la rubrique d'ici et d'ailleurs, ton émission Lulu que tu animes un samedi tous les 15 jours à partir de 14h. Qu'on se le dise à bon entendeur, à bonne entendeuse. On va se quitter aujourd'hui avec un titre de circonstance. En plus, c'est l'actualité puisqu'un certain Thomas Dutronc sera présent au Festival au Chant de Chantex en cette année 2025. Ce sera le 12 juillet. Je crois que c'est une première pour Thomas Dutronc au Festival au Chant. Et on va se quitter donc avec un de ses derniers titres. Il n'est jamais trop tard. À bientôt. Bon après-midi.
Jamais trop tard, dans la nuit sonnent les guitares. Demain nous paierons le prix de nos folies. La chaleur de ta peau, la chanson douce de l'oiseau. La voilà la vie, celle qu'on aime à nouveau. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini. Et tes yeux sont comme deux miroirs. Pour pardonner, se dire je t'aime. Pour faire de ce long voyage un poème. Ce soir nous sommes unis par des mélodies qui résonnent. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on donne. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini. Dans les yeux de celui qui sait voir. Jamais trop tard, quand je me plonge dans ton regard qui efface le monde et ses ombres. C'est le bleu de la mer, l'oasis dans le désert. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on perd. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini. Et nos larmes ne sont qu'un peu de pluie. Son douce de l'oiseau, la voilà la vie, celle qu'on aime à nouveau. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini, et tes yeux sont comme deux miroirs.